Bonsoir à tous et bienvenue sur le cours de F6KGL. Donc ce soir, nous commençons cette première partie du cours qui concerne la réglementation qu'on va donc voir jusque, on va dire, mi-novembre, enfin début novembre, mi-novembre, selon l'avancement. Nous allons voir ce soir ce que j'ai appelé l'environnement réglementaire, donc même si on ne rentre pas trop dans le détail de tous les textes, là, en fait, on va voir d'où proviennent tous ces textes et comment ils s'articulent les uns avec les autres. Alors, on rentrera plus en détail, évidemment, dans les prochains cours, donc ne soyez pas étonnés que systématiquement, je vous renvoie sur des parties, enfin sur d'autres parties, mais là c'est vraiment essayer de voir d'où vient tout cet environnement réglementaire. Donc, concrètement en France, et j'ai bien dit en France, donc c'est valable évidemment pour tous les pays européens, mais dès qu'on sort de l'Europe, c'est plus valable cette. Vous allez vite comprendre pourquoi. On a trois niveaux de textes. On a les textes internationaux, qui sont donc les textes de l'UIT. Alors, UIT en français, ITU en anglais. Hein. UIT, Union Internationale des Télécoms, et en anglais, International Telecom Union. Hein. Comme les Anglais, ils inversent tout, c'est facile. Ils auraient pu dire aussi TIU, mais ils ont dit ITU. Voilà. Qui commence déjà par l'adjectif. Bon, donc l'UIT, on va voir ce que c'est que ce sont ces textes de l'UIT. Évidemment, l'UIT, ce sont des textes internationaux, donc ils s'appliquent en théorie à tous les pays derrière. On va voir concrètement, plus en détail, comment ça fonctionne. On a un niveau, nous en Europe, un niveau européen, c'est-à-dire que tous les textes internationaux sont traduits entre guillemets et un peu plus détaillés dans les textes européens. Et au niveau européen, on a donc la CEPT, la Conférence européenne des postes et télécommunications. Voilà. CEPT, et ça se dit la même chose en anglais. Et enfin, on a les textes français. Voilà, donc encore une fois, cette partie réglementaire ne s'intéresse que pour les Français. Évidemment, si vous êtes belge ou canadien, ça va plus être les mêmes textes. Mais l'esprit reste le même de toute façon. Pour rappel quand même, tous ces textes-là dont on va parler, ils sont sur notre site internet, donc je récupère régulièrement et je mets à jour régulièrement tous les sites qui concernent notre activité, donc sur deux liens. Un texte PDF qui est énorme, qui doit faire 250 pages, qui est sur ce lien. Et le même document, mais au format HTML, qui est sur ce lien ici. Alors je pousse ça parce que ça m'énerve. Je vais vous montrer rapidement, donc je me mets sur Firefox. Il faut que je lance Firefox avant, sinon ça va merder. Voilà, je me mets sur Firefox, je reprends mon PDF, je clique dessus, s'il veut bien s'ouvrir, et voilà. Donc, ce texte est en ligne, donc vous pouvez de chez vous récupérer toutes les informations. Je viens de le mettre à jour et après bah voilà, donc là c'est un truc qui est assez immonde parce que voilà, donc il y a tous les textes possibles et imaginables. Donc voilà, ça c'est par exemple le code pénal français, voilà, le secret des communications. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Les parties en rouge, ce sont mes commentaires à moi. Et quand il y a des trucs en bleu, ce sont des nouveautés. Quand c'est rayé, ce sont des des nouveautés, mais qui ont été supprimées en fait. Hein, ce sont des suppressions récentes. Et quand c'est en bleu normal, ce sont des nouveautés, réellement nouveautés. Voilà, donc il y a un petit peu à lire. Si vous avez des problèmes d'insomnie, ça peut être une solution. Voilà. Donc vous avez plein, tous les textes dont on va parler sont là-dessus. Je reviens sur mon PDF. Et le PDF dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ici, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas en ligne, évidemment. C'est au format PDF. Et comme ça, enfin, en cliquant sur le lien, vous êtes certain d'avoir la dernière version du document, comme ça. Voilà. Eh bien, on va commencer en détail tous ces textes. Donc déjà, au niveau international, parce qu'évidemment, on commence, en fait, par le niveau international, puisque derrière, on a le niveau européen, et ensuite, le niveau français, qui donne encore plus de détails. Hein, c'est un millefeuille. Hein, donc, au niveau international, ce sont les grandes lignes, on va dire, et on rentre dans le détail au fur et à mesure qu'on va soit au niveau européen, soit au niveau français. Donc, premièrement, l'UIT. Donc l'UIT, c'est une... déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme qui dépend de l'ONU. Donc, comme l'ONU, en fait, il y a l'ensemble des pays, qui existent, qui se réunissent régulièrement et qui votent un document qui s'appelle le RR. Coup de chance extraordinaire, ça se dit RR en français et en anglais. En français, c'est le règlement des radiocommunications. En anglais, c'est le Radio Regulations. Et c'est donc le RR. Et ça, c'est un document qui est mis à jour, on va dire... Alors, est-ce que j'ai une première page? Je ne sais même pas, d'ailleurs. Non, je n'ai pas de page en dessous, non. C'est un document qui est mis à jour tous les 3 ans, à peu près 3-4 ans, lors des réunions qui s'appellent des CMR, les Conférences Mondiales des Radiocommunications. Donc ce RR, il est dans mon document, dans mes documents, hein, vous inquiétez pas. Évidemment, je n'ai parlé dans ce document pas de l'intégralité du RR, sinon là, c'était mort. L'intégralité du RR, le tome 1 déjà, il doit faire 400 pages. Donc, au secours. Donc, je n'ai pris dans le RR que les parties 1 qui n'étaient pas déjà reprises par ailleurs, soit dans le document français, soit dans le document européen. Et donc, je n'ai pris que les dispositions pour les radioamateurs. Il y en a quand même, du coup... Enfin, c'est assez, y a beaucoup moins que dans ce document-là, où encore une fois, il n'y a que le RR, parce que derrière, il y a 4 tomes. Là, c'est le tome 1, donc avec les dispositions, et il y a aussi des recommandations, plus des annexes, qu'ils appellent des appendices. Donc ça, j'en ai quelques-unes, mais on en parlera au fur et à mesure. La première disposition du RR, la première chose déjà quand il y a un texte, c'est qu'on définit les différents termes qu'on va utiliser. Donc pour le RR, donc le S1, donc la section 1, c'est toutes les définitions de ce que l'on va voir après. Et donc par exemple, le S156, il définit ce qu'est le service amateur. Et ça, c'est très important parce que ce texte-là va être repris mot pour mot et dans les textes européens et dans les textes français. Donc on va le dire, vous allez voir, parce que ça, c'est quelque chose qui définit précisément qu'est-ce que le service d'amateur. Donc c'est un service de radiocommunication. Donc là, on parle bien de radio et pas de communication électronique. Donc, par exemple, via Internet, on est bien un service de radiocommunication, ayant pour objet l'instruction individuelle, parce que chacun fait ça pour soi, c'est pas un métier. Hein. Donc l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques effectuées par des amateurs. Donc le terme service amateur, c'est parce que nous sommes des amateurs. Pas amateurs au sens péjoratif en français, mais des amateurs au sens des gens un peu éclairés qui essayent de... Alors qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je suis intéressé d'avoir un petit compte-rendu, si c'est possible. Pascal. Voilà, donc on continue. Donc, service de radiocommunication ayant pour l'objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques effectuées par des amateurs, c'est-à-dire des personnes dûment autorisées. Dûment autorisées, c'est pour ça qu'il y a un examen. Alors, c'est pas obligatoirement un examen organisé par l'administration locale. Ça peut être un examen organisé par une association, et ça, c'est dans beaucoup de pays, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que ce sont les associations de radioamateurs qui font passer l'examen. En France, c'est l'ANFR, donc c'est l'administration. Et donc, ces amateurs, ils s'intéressent à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire, donc on ne peut pas se faire payer. Il ne faut pas en chercher à avoir des revenus avec cette activité. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez clair. Voilà. Et juste après, il y a le S157. Alors, pourquoi ? C'est qu'en fait, l'ERR définit à la fois des services qu'on appelle fixes ou mobiles, donc qui sont terrestres, mais aussi des services qui sont aéronautiques, donc en vol, et puis des services de l'espace, et donc de l'espace, ça veut dire ce sont des satellites qui, par définition, sont à plus de 100 km d'altitude. Voilà. Ça, c'est... alors, c'est pas clairement dit comme ça dans le RR, mais un satellite n'est pas un objet aéronautique. Donc, il ne vole pas, mais il est en orbite.
Il gravite.
Voilà. Alors, vous me direz, c'est quoi la différence ? Eh bien, c'est un petit peu difficile à...
Il est maintenu par une ficelle, contournant...
Ouais. Mais c'est pas... Enfin, cette limite, elle n'est pas facile à déterminer. Voilà. Parce qu'à un moment, tu voles, et à un moment, tu ne voles plus, tu es en orbite.
Tu décroches.
Voilà. Oui. Et donc voilà. Et le service amateur par satellite, sa définition c'est quoi ? C'est un service de radiocommunication faisant usage des stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur. Voilà. Donc ce sont. Et donc on va voir dans les différents textes internationaux par la suite, on parlera du service amateur et du service amateur par satellite. Et puis on a le S25 qui est très intéressant parce que c'est une section qui parle de toutes les conditions d'exploitation du service amateur. Alors, le S25, en fait, il est relativement court puisque dans mon PDF, ça doit faire même pas une page complète. Ça doit faire une demi-page. Et donc, il y a beaucoup de choses. Alors, faut bien se voir que l'UIT est une branche de l'ONU. Et comme tout discours onusien, eh bien, faut heurter personne. Puisque le texte doit être signé par tous les pays. Et donc, voilà, faut faire en sorte que tous les pays acceptent de signer le truc. Donc, on est quelquefois en face de phrases très onusienne, qui en fait ne veulent pas dire grand chose.
Oui, mais ça évite de marcher dans les plates-bandes.
Voilà, et ça évite de marcher dans les plates-bandes. Enfin, voilà. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui est dans le RR, du coup, ça fait consensus. pour tout le monde. Et en particulier, on a trois articles qui sont intéressants. Le S25-2A, il est interdit de coder les transmissions. Alors, coder, en langage onusien, ça veut dire crypter. Un codé, le morse, c'est un code. Mais...
On peut crypter le morse comme le V.
Mais voilà, on peut crypter le morse. L'idée, là, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc, le mot codé, là, d'ailleurs, en français, c'est la même chose. Donc, en termes de réglementation française, quand on voit codé, vaut mieux... traduire ça pour nous comme crypté. C'est plus l'idée du cryptage que du codage vraiment. Le 25.6, les administrations vérifient les aptitudes des opérateurs. Alors ce qui n'est pas, alors là j'ai pas repris le texte en entier, mais les administrations peuvent éventuellement déléguer ce pouvoir à des sociétés ou des associations. En France, on est bien d'accord que c'est l'administration qui vérifie les aptitudes des opérateurs, c'est l'ANFR qui fait passer l'examen. Et donc ça veut dire ça que dans tous les pays du monde entier, il y a systématiquement un examen, plus ou moins compliqué, mais il y a un examen, c'est sanctionné par un examen. Et enfin, le 25-9, les stations d'amateurs doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles. À de courts intervalles. Voilà, donc on n'en sait pas plus, et en fait, il faut revenir au texte français pour avoir plus de détails, c'est-à-dire au début, à la fin de chaque émission, et au moins toutes les 10 minutes, si l'émission dure plus de 10 minutes. D'ailleurs, je donne mon indicatif, puisque j'oublie souvent de le donner, F6 KGL opéré par F6 GPX. On a aussi dans le RR des résolutions. Alors les résolutions, c'est comme les résolutions de l'ONU. C'est-à-dire que tout le monde se met autour de la table et on se dit, mais qu'est-ce que l'on peut faire pour tel problème? Donc des résolutions, il y en a toute une palanquée. Il y en a une qui est très intéressante pour nous, radioamateurs, c'est la résolution 646. Et cette résolution 646, elle s'appelle « Protection du public et secours en cas de catastrophe ». Et donc, en anglais, c'est PPDR. Alors, je ne me souviens plus ce que ça veut dire, PPDR. Mais voilà, c'est... R, c'est Rescue, après, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. Et cette résolution, elle préconise une harmonisation des fréquences par région, et reconnaît l'utilité de la convention de Tampere. Alors cette convention, elle n'est pas réellement, elle ne fait pas partie des résolutions de l'ONU, c'est une convention qui a été signée entre États, pas tous les États de l'UIT, mais un certain nombre, et donc ça a été ratifié au fur et à mesure, très tardivement pour la France d'ailleurs. C'est une convention qui date de 1998, sur la mise aux dispositions de ressources de télécom en cas de catastrophe. Donc, c'est la coopération entre les États. Et donc, notamment, cette coopération, c'est coopération au niveau des télécoms, mais aussi d'autres services en cas de catastrophe. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette résolution 646, elle remplace d'autres résolutions qui ont été abrogées, et notamment la 640, qui ne parlait que de catastrophes naturelles. C'est-à-dire qu'avant cette 646, on ne pouvait intervenir dans un autre pays qu'en cas de catastrophe naturelle. Et donc, par exemple, une guerre n'est pas une catastrophe naturelle. Une guerre n'est pas une catastrophe naturelle.
Un crash d'avion
n'est pas une catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle, c'est un typhon, enfin c'est un ouragan, un typhon, un tsunami et des trucs comme ça. Ça, c'est des catastrophes naturelles.
Tchernobyl
n'est pas une catastrophe naturelle. Voilà, par exemple. Et donc, depuis, les catastrophes, ce sont les catastrophes en règle générale. Et puis aussi, il y avait la 644 qui traitait des moyens de télécommunication pour l'atténuation des effets de catastrophe et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. Donc ces deux résolutions, 640 et 644, elles ont été abrogées et remplacées par la 646. Et on a une recommandation, donc après une résolution, on a aussi les recommandations. Alors là, les recommandations, en fait, elles sont établies par les comités techniques de l'UIT, mais pas signées par les États. Donc une recommandation, en fait, c'est chacun fait comme il veut, quoi. Voilà, c'est plus une piste qu'autre chose. Et donc cette recommandation, la UIT RM 1042, elle parle des communications en cas de catastrophe et rappelle ce que l'UIT attend des radioamateurs, c'est-à-dire la mise en œuvre rapide de réseaux souples et fiables. Parce que évidemment, la 646 ne s'adresse pas spécifiquement aux radioamateurs, elle s'adresse aux États. Et les États, s'ils veulent faire intervenir des radioamateurs, ils le peuvent, mais voilà, ce n'est pas une obligation non plus. Et la résolution 647, elle prévoit l'établissement d'une base de données des fréquences utilisables qui est pas trop... Enfin, elle est utilisée enfin, récemment dans tous les... Dans toutes les catastrophes qu'il y a eu récemment, on a utilisé les fréquences données par cette résolution 647. Donc ça marche pas trop mal. On a une disposition 25.9a qui est très importante aussi et qui résume l'esprit de tous ces textes. Les administrations sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour autoriser les stations d'amateurs à se préparer en vue de répondre aux besoins de communication pour les opérations de secours en cas de catastrophe. Donc ça, c'est dans le S25, donc les conditions d'exploitation des radioamateurs. Et voilà, donc en fait, on est autorisé à se préparer, donc à éventuellement faire des exercices sur terrain pour pouvoir répondre aux besoins, soit les besoins français, dans le cadre de plans ORSEC ou SATER ou autre, ou alors à l'étranger, dans le cadre de la résolution 646-647 ou de la convention de Tampere. Alors Tampere, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Finlande. Deuxième ville de Finlande. Et donc, je le disais tout à l'heure, tous les 3-4 ans, l'UIT organise une CMR, donc c'est CMR, Conférence Mondiale des Radiocommunications, en anglais, World Radio Communication Conference, je suppose. Et donc, lors de ces CMR, on met à jour le RR. Donc, ce sont des grands messes, puisqu'il y a donc les 198 pays avec chaque, c'est les administrations, donc il y a un peu de monde, plus des observateurs, notamment toutes les sociétés qui gravitent autour des télécoms quand même, qui ont leur petit mot à dire, et puis les radioamateurs aussi. Et puis tout le microcosme de la radiocommunication en règle générale qui sont là. Encore une fois, comme à l'ONU, alors la dernière CMR a eu lieu à Sharm el-Sheikh en 2019. Donc Sharm el-Sheikh, c'est en Égypte, c'est une grosse station balnéaire en Égypte, et en fait ils avaient pris l'intégralité de cette station balnéaire pendant un mois, au mois d'octobre 2019, enfin, octobre-novembre 2019. Et donc, l'Égypte a fait une très bonne affaire, puisqu'elle a réussi à refourguer tous ces hôtels qui n'étaient pas trop remplis. Comme à l'ONU, donc toutes les décisions, donc l'ERR est mis à jour à l'unanimité. Alors, à part les exceptions, parce qu'en fait, on va voir que, mais ça, on le verra plus tard, c'est que notamment dans le tableau des fréquences, il y a ce que l'on appelle les notes de bas de page. C'est-à-dire que on dit pour telle bande, ben voilà, c'est tel service qui va l'utiliser. Sauf, il y a une petite note de bas de page qui dit, ah ben, dans tel pays, il y a une attribution soit de remplacement, c'est-à-dire que à la place de tel service, c'est un autre, ou une attribution complémentaire, c'est-à-dire qu'on rajoute un service en plus. Et donc, tout le monde ramène sa fraise en disant « Et moi, je veux que pour moi, ce soit, on écrive ça, etc. etc. » Et donc, du coup, ce tableau des fréquences, il faut non seulement le lire tel que, mais lire aussi les notes de bas de page. Et c'est là où on découvre plein de trucs. Voilà, et chaque pays dit bah moi je veux tel truc pour moi. Voilà. Donc dernière CMR à Sharm el-Cheikh avec un bilan mitigé, c'est-à-dire qu'au départ les radios amateurs étaient voilà, il y avait des propositions pour faire en sorte que la bande 52-54, enfin, la bande 50-52 mégas, il n'y a pas de débat, elle est déjà pour les radios amateurs. Et il y avait une fenêtre, entre guillemets, d'extension de cette bande de 52 à 54 mégas. Donc 2 mégas supplémentaires sur cette bande. Et en fait, il y a eu un tollé de toutes les administrations. Donc, le 52-54 est bien indiqué sur le tableau des fréquences, mais tout le monde a rajouté des notes de bas de page en dessous, dont la France, bien évidemment. Donc, cette bande 52, alors donc la bande, elle fait 50 à 54 maintenant, au niveau RR, sauf que si vous regardez, alors je crois, mais sans dire de bêtises, que les notes de bas de page de cette bande 52 et 54, ça doit faire 3 pages du RR. Quasiment tout le monde a rajouté sa petite sauce, et si bien que, voilà, c'est une décision qui est, voilà, pour moi, ça s'est soldé par un échec. Alors, ah oui, alors Claude Giraud, j'ai eu, ça je l'ai eu, j'ai eu son compte rendu. Voilà, donc Pascal, il n'y a plus qu'à faire le compte rendu. Et donc la prochaine CMR, c'est en 2023, où je pense que ça sera à Genève. Genève, c'est le siège de l'UIT, et il y a un grand amphithéâtre qui peut recevoir tout le monde, donc normalement ça pourrait se faire à Genève, et puis ensuite 2027 ou 2028, parce que c'est entre 3 et 4 ans, et donc pour le moment c'est défini en 2027, mais ça risque d'être plutôt 2028, puisque c'est plutôt un rythme de 3 ans et demi. Il y a une année, c'est au mois de novembre, et 3 ans après, c'est au mois d'avril, donc ça fait grosso modo 3 ans et demi, pour ça que je mets 3-4. Enfin, tout au moins, c'était le rythme qui était retenu les dernières fois. Bon, après avoir vu l'UIT, on va voir maintenant la CEPT. Donc la CEPT, c'est pareil. Elle a un pavé aussi monstrueux que le RR. Sauf que, c'est pas un document. Elle en a autant qu'il y a de sujets. Et donc, pour les radios amateurs, on a un sujet qui est les TR-6101 et TR-6102, dont on va parler tout à l'heure. Enfin, tout de suite, d'ailleurs. Donc, la CEPT, c'est quoi? C'est les administrations qui sont chargées des postes et télécommunications de tous les pays de l'Union européenne. Donc maintenant, je rappelle, on n'est plus que 27, puisque le Royaume-Uni est sorti. Et donc, ce sont les 27 de l'Union européenne et quelques autres pays européens. Et quand on dit européen, c'est au sens très large du terme, puisque on a par exemple l'Azerbaïdjan, la Turquie, Chypre.
Ben voilà, c'est ça qu'il voulait.
Voilà. Donc, quand on parle de pays européens, c'est vraiment au sens très large du terme. On a aussi la Russie d'ailleurs. Hein. La Russie fait partie de ces pays européens. Alors que tout le monde sait qu'il y a une grande partie de la Russie qui est plutôt asiatique. Bon, enfin bon, peu importe. En tout cas, il y a ces 48 pays qui sont regroupés donc au sein de la CEPT, qui se réunissent et qui, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reprennent les textes de l'UIT et ils essayent de les rendre un peu plus lisibles et un peu plus détaillé que ceux de la de l'UIT pour faire en sorte que y ait une unité dans toute l'Europe au sens large du terme, parce que comme vous le savez sûrement, les ondes n'ont pas de frontières et donc c'est mieux que y ait une harmonisation complète de l'intégralité des fréquences à l'intérieur de l'Europe. Et des normes européennes, d'ailleurs. Parce que la CEPT s'occupe... Alors, vous remarquez que c'est télécommunication. Donc, c'est tout ce qui est télécom, donc à la fois filaire, mais aussi radio. Hein, donc là, on a, par exemple, tout ce qui est les protocoles Internet. Le développement de l'IPv6 aussi, par exemple, au niveau européen. Les plans de bande de la 5G. Parce que votre téléphone, vous avez intérêt à pouvoir l'utiliser partout en Europe. Aux États-Unis, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en Europe, ça serait bien que tout le monde ait les mêmes standards. Donc voilà. Et donc, encore une fois, on parle ici de la poste. Donc le papier avec le timbre, c'est pareil, il faut qu'il y ait des normes, ne serait-ce que par le poids des enveloppes, par exemple. C'est bête et con, mais voilà. Ou les formats des enveloppes. Et puis les télécoms. Télécoms au sens très large du terme, c'est-à-dire que pas que radio. Donc la CEPT s'occupe de plein de trucs. Et d'un tout petit truc qui sont aussi les radioamateurs. Et donc, pour les radioamateurs, on a deux textes essentiels qui sont très anciens quand même, 85 et 90. On a commencé en 85 en disant, il y a libre circulation des radioamateurs à l'intérieur de la CEPT pour des séjours de moins de 3 mois. Concrètement, ça veut dire qu'avec votre examen français, vous pouvez utiliser une radio dans tous les pays de la CEPT qui appliquent cette recommandation TR-61-0. Mais ce n'est valable que pour des courts séjours, grosso modo c'est pour des séjours touristiques, quoi. Au-delà du séjour touristique, il faut se raccrocher à la réglementation locale. Alors en France, c'est vu d'une certaine manière, et ça ne sera pas vu de la même manière en Belgique, en Suisse, enfin ailleurs.
Ou en Tchéquie.
Où vous voulez. Donc ça, c'est la TR-61-0, où on peut utiliser notre indicatif radio dans tous les pays de la CEPT. Tout au moins ceux qui appliquent cette recommandation. Et à part deux pays complètement improbables, et que je ne pense pas que vous allez faire du tourisme là-bas, on peut le faire partout. Quand on a dit ça, après, le problème, c'est savoir quel niveau on parle pour, parce que c'est bien gentil de dire libre circulation, mais après il faut définir quel programme on met en place pour ce certificat qui permettrait de se balader dans tous les pays. Donc il faut du coup prévoir un programme d'examen pour que chaque administration puisse faire passer l'examen local. Et donc ça, c'est la TR6102 avec un programme d'examen détaillé et de réglementation et de technique. Et ce programme, ça s'appelle AREC. Harmonized Amateur Radio Examination Certificate. Donc c'est un certificat européen ou européen radio amateur harmonisé. Hein. En anglais, on le passe dans l'autre sens. Donc c'est ce fameux AREC. Et donc, c'est ce programme détaillé qui est utilisé pour l'examen français. Donc en fait, ils ont pris le texte, évidemment traduit en français, tant qu'à faire c'est mieux, de la 6102, et ils ont fait un copier-coller dans le texte français. Hein. Copier-coller, pas exactement, parce qu'il y a quelques petites subtilités qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais, voilà, dans, je veux dire, à 99%, c'est le texte CEPT. Donc notre certificat français actuel est un certificat AREC, qui donc permet d'utiliser notre indicatif dans tous les pays de la CEPT. Ce que n'était pas l'examen, ce qu'on appelait le F0, puisqu'il n'y avait pas de technique, il n'y avait que de la réglementation. Donc il n'y avait qu'une partie du programme, la partie réglementation, mais pas la partie technique. Tout au moins, pas l'intégralité de la partie technique. Et puis aussi, alors depuis 2005, il existe une licence CEPT novice, donc il y a un programme qui est en fait le même programme que le programme AREC, sauf qu'il y a des items qui ont été retirés, plus simple. Et donc cette licence novice, c'est donc le rapport ERC 32, et qui a donné lieu à la recommandation ECC 0506, qui aussi établit la libre circulation des novices. Encore une fois, l'examen français n'était pas un CEPT novice. Il n'appliquait pas cette recommandation.
Et maintenant ?
Ben non, non plus.
Non plus.
Non plus.
Il n'y a qu'un seul examen, point.
Point barre. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle une licence d'entrée sans équivalence, donc avec une recommandation ici, alors là avec un programme extrêmement light, mais de toute façon il n'y a pas d'équivalence, donc on ne peut pas trafiquer à l'étranger avec cette licence d'entrée. Donc c'est vraiment le truc bas de gamme, réglementation, quelques notions de technique, mais ça se limite à la loi d'Ohm en fait. Et puis quelques généralités sur les antennes. Voilà, c'est tout. Mais encore une fois, ce programme-là n'a jamais été appliqué en France. Ni le CEPT novice, ni la licence d'entrée. Au niveau européen, donc, on a le Bureau européen des communications, qui est basé à Copenhague. Et donc, c'est l'organe permanent de la CEPT qui assure la logistique des réunions, puisque la CEPT, donc, elle est basée à Copenhague, il y a un joli bâtiment qui accueille les conférences, justement, et qui organise les réunions, dans laquelle sont organisées les réunions, comme pour l'UIT à Genève. Bon, c'est plus petit, c'est tout. Et on a, donc, ça c'est le bureau européen donc, qui organise ces réunions, donc il y a des belles salles de réunion. Et il y a le comité des communications électroniques, donc ECC en anglais, qui, en fait, ce sont des groupes de travail qui adoptent les recommandations et les décisions qui sont préparées par les groupes de travail, où là, on a toutes les administrations, et ça ne concerne évidemment que les administrations, il n'y a pas les radio amateurs et les industriels de la radio, sont peut-être là en tant qu'observateurs, mais ce n'est pas eux qui votent les décisions. Alors, ils font peut-être du lobbying, ça c'est un autre débat, mais ce n'est pas eux qui votent après. Petit rappel quand même de droit international, parce que on oublie quelquefois, une recommandation, c'est qu'une incitation pour les États membres à adopter un comportement particulier en vue d'une harmonisation. Voilà. Donc ce n'est qu'une incitation. Chacun fait ce qu'il veut. Une directive, là c'est un peu plus directif, donne des objectifs à atteindre avec un délai pour la transposition en droit national. On a beaucoup de directives, notamment toutes les directives liées à la compatibilité électromagnétique. Ce sont des directives. Alors il y a aussi d'autres directives qui n'ont rien à voir avec la radio. Moi je travaille dans la finance, et donc il y a des directives aussi au niveau de la fiscalité. Donc voilà, en fiscalité, c'est la directive d'Axis en ce moment. La directive qui est en ce moment en train d'être mise en place, c'est la directive RED. Donc c'est la Radio Equipment Directive. Donc voilà, encore une directive. C'est une directive aussi, c'est celle qui a imposé le logo CE sur le matériel. C'est une directive. Pourquoi ? C'est que systématiquement, donc ce texte sort, et dans ce texte, il est dit, chaque État membre de la CEPT s'engage à inclure tel paragraphe dans sa réglementation nationale au plus tard à telle date. C'est ça une directive. Une résolution, elle a vocation d'apporter une solution concrète à un problème, et seule l'UIT émet des résolutions, elles sont recensées dans le RR. Donc les résolutions, c'est typiquement onusien. Donc UIT. Il faut bien se voir, l'UIT est une émanation de l'ONU. Donc ça, déjà, il y a les mêmes pays, et c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire, c'est des décisions qui sont prises à l'unanimité. Et de plus, l'ERR, on le verra tout à l'heure, il a force de loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a modifié l'ERR, en France, on est obligé de l'appliquer à la date à laquelle dans les résolutions, dans les dernières résolutions de chaque CMR, il est indiqué, toutes les résolutions, elles doivent être transposées au niveau national avant telle date. Alors, il n'y a pas de sanction, au cas où on ne le fasse pas, mais on a l'air malin si on ne le fait pas. Et puis, une décision, c'est quelque chose qui est très rare, surtout dans notre domaine, c'est applicable sans transposition dans le droit national. Et donc, en fait, concrètement, ça n'existe jamais. Pourquoi ? C'est que s'il y a une décision, ça veut dire que derrière l'Assemblée nationale n'a plus aucun pouvoir. Donc c'est quand même un peu embêtant. Voilà. Donc les décisions, elles n'ont pas trop. C'est des décisions qui sont plus. Dans d'autres domaines que le domaine radio ou télécom. Et dans les faits, elles sont très rares. Et une décision, c'est encore une fois, ça ne peut être pris que par l'ONU. Parce qu'on sait bien que les résolutions, elles sont là surtout pour ne pas être appliquées. Hein. Le nombre de résolutions qui ont été prises à l'unanimité et pas appliquées à la suite, on a une foultitude.
Ah oui.
Ah bah, plus connu, c'est la Palestine. Hein.
Ah bah oui, ça verra tout le temps.
Bah non, mais la Palestine, l'ONU avait dit que c'était un État. Jusqu'à présent, c'est pas le cas.
Hein.
Oui, mais voilà. Même chose Chypre Nord. Hein. C'est exactement pareil. Enfin bon, je veux pas faire de politique ici, c'est pas le but. Mais voilà, c'est. Encore une fois, je dis toujours, une résolution, c'est fait surtout pour ne pas être appliqué. Et avoir toutes les bonnes raisons de ne pas l'appliquer. Au niveau national, donc nous sommes régis par le code des postes et communications électroniques, donc c'est assez long à dire, et donc souvent je dis CPCE, c'est plus facile à dire. Mais comme son nom l'indique, c'est le code des postes, donc la poste, hein, donc papier, le timbre, etc., la poste. Et les communications électroniques, ce n'est donc pas que la radio. C'est toutes les communications électroniques, notamment Internet, etc., etc. Le téléphone, tout ce que vous voulez. Et côté radio, mais pas spécifique radio amateur. Hein. En ce moment, tout le monde est plutôt côté 5G et autres sujets comme ça que purement radio amateur. Et donc, ce Code des postes et communications électroniques, ce CPCE, il y a des textes de loi, on va voir tout à l'heure, donc ça, c'est voté par des députés, ce sont des lois. Vous avez des décrets, donc ça commence par un D. Et donc, un décret, bah, c'est donc pris par une autorité, le gouvernement, en l'occurrence, le ministre chargé des communications électroniques, qui est le ministre de l'économie et des finances, et donc il sort des décrets d'application de textes, donc qui définit un peu plus précisément ce que dit le texte de loi. Et puis aussi on a des règlements, donc c'est des articles en R, on verra tout à l'heure ce que c'est qu'un R, la différence entre un article règlement et un article décret. Donc le L33.3, ça c'est ce qui encadre notre activité, pas que radio amateur. Hein. C'est ce qui encadre notre activité. On est redevable, nous, du L33.3. Le L33.3, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, on peut reprendre chaque, comme on a fait tout à l'heure avec la définition du service d'amateur. On va lire le texte. Donc, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leurs utilisateurs sont librement établies. Enfin, sont établies librement, pardon, dans l'autre sens. Donc là, on est bien dans ce cas-là. On a des installations radioélectriques. On n'utilise pas une fréquence spécifiquement assignée. Une fréquence spécifiquement assignée, c'est, par exemple, je dis n'importe quoi, une ambulance. Une ambulance, ça une et une seule fréquence. Elle a le droit d'utiliser que cette fréquence. Nous, on a des bandes de fréquences. Et donc, on peut utiliser n'importe quelle fréquence à l'intérieur de ces bandes. Et donc, on est dans ce cas-là, nous, toutes les installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquence spécifiquement assignée à leur utilisateur sont établies librement. Ça veut dire que nos installations, à partir du moment où elles répondent aux conditions derrière, eh bien, on ne peut pas nous interdire de faire de la radio. Pour n'importe quelle, sous réserve qu'on soit bien dans les conditions prévues au L36.6, qu'on va voir après. Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues au L36.6. Et donc, pour aller plus en détail du L33.3, le 406.7 définit les installations utilisant des fréquences radioélectriques qui ne sont pas... ces installations électriques qui n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Et ces installations sont, c'est quoi ? Première catégorie, réseau à caractère professionnel, économique ou social. Station expérimentale, études et démonstrations. Troisième catégorie, service d'amateur, c'est nous. Quatrième catégorie, poste émetteur récepteur CIBI. Cinquième catégorie, autres installations, dont notamment radiocommunication de loisirs ou les radiocommandos. Donc nous, on est la troisième catégorie. Le L41.1, il nous dit quoi ? Il nous dit que l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception des signaux, est soumise à autorisation administrative. L'utilisation de fréquences radioélectriques constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État. Donc ça veut dire que le spectre radioélectrique appartient à l'État et qu'éventuellement il nous fait la grâce de pouvoir l'utiliser. Et d'autre part, il y a bien une autorisation administrative, en l'occurrence, nous, c'est passer un examen. Auparavant, la contrepartie de l'occupation privative du domaine public de l'État, c'était la redevance annuelle qui a été supprimée en 2018. Donc maintenant, cette occupation privative du domaine public, elle est gratuite pour les radioamateurs. Et au niveau national, on a aussi des autorités réglementaires qui sont définies par le CPCE. Le Premier ministre, c'est de L41 qui nous dit ça, le Premier ministre arrête le partage du spectre radioélectrique entre le CSA, l'ARCEP et les services de l'État. Et donc c'est un arrêté que prend le Premier ministre qui permet de définir ce partage du spectre qui est fait évidemment à partir du tableau de répartition des fréquences de l'UIT, c'est le S5 de l'UIT, la section 5 de l'UIT, là où il y a toutes les fréquences et notamment les notes de bas de page dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ce document de l'UIT est repris dans le TNRBF et dont on parlera quand on parlera du tableau des fréquences, je vous rassure. Et donc ce TNRBF est publié sur le site de l'ANFR. C'est aussi, imbitable, oui, on pourrait le dire. Je crois qu'il fait 280 pages. Donc voilà, et donc il y a le détail de tout ce que l'on peut trouver sur les différentes bandes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ANFR a publié ce qu'ils appellent la frise ANFR, que je vais vous présenter. Alors, qui serait bien que c'est qu'elle soit affichée dans tous les radioclubs. Il y a un lien que j'ai mis zoomer. Alors, pas trop, parce qu'après, ça va être flou. Mais voilà, ça vous donne donc l'intégralité de la répartition du spectre de 3 mégas à 300 gigas. Donc ici, vous avez les différents services. Alors c'est moche parce que je zoome trop, donc c'est plus très lisible. Mais par contre, voilà. Vous avez ici tous les services qui sont indiqués. Je vais regarder si je peux pas avoir ça ici avec la frise. En se mettant sur Firefox, ça doit mieux aller si ça se trouve. Est-ce que je l'ai ? Yes ! Alors, plus. Est-ce que c'est... Non, c'est pas plus beau. Je pensais que c'était plus beau. Non. C'est tout aussi moche. Désolé. Je pensais que ça allait mieux passer. Donc c'est pas la peine que j'ouvre ça. Je reviens sur le PDF. Et donc si vous voulez acheter cette belle frise, alors elle est un peu chère, mais ça peut, je sais plus, c'est dans les 100, un peu plus de 100 euros. Mais c'est une belle, enfin c'est sur de la toile plastifiée, donc ça se garde. Et donc vous avez l'intégralité du spectre, donc avec tous les services et des petits pictogrammes là, des différents services. Ça peut être intéressant pour montrer aux gens qui passent ce à quoi on a droit. Au niveau national, on a d'autres autorités réglementaires, à part le Premier ministre. On a aussi l'ARCEP. On a vu tout à l'heure, enfin à l'instant, que le Premier ministre, il répartissait le spectre des fréquences entre le CSA. Alors le CSA, je rappelle, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il va s'occuper de tout ce qui est radio, mais radio, enfin la bande FM, hein, 88-108, et aussi de tout ce qui est télévision. Donc il va s'occuper de cette partie radio-télévision en fait. L'ARCEP va s'occuper de tous les autres utilisateurs du spectre en dehors des services de l'État. Et donc voilà, c'est tous les utilisateurs, par exemple tout ce qui est téléphonie mobile, c'est l'ARCEP qui gère ça. Mais pas que, hein, l'ARCEP gère finalement tout ce qui est radiocommunication hors radiodiffusion et hors service de l'État, comme par exemple la météo, comme par exemple les phares et balises, comme par exemple l'aviation civile, etc. etc. Voilà, l'ARCEP a un peu de boulot quand même, et dans son giron, il y a aussi le service amateur qui, voilà, on n'est pas trop bien reconnu auprès de l'ARCEP. Tout le monde à chaque fois, enfin au niveau ARCEP, quand on leur pose la question, ils savent pas trop quoi dire de nous, voilà. Je pense qu'on est plutôt les empêcheurs de tourner en rond, mais voilà, c'est l'ARCEP qui nous attribue les fréquences. Une fois que le Premier ministre nous les a attribuées, l'ARCEP prend une décision et nous assigne donc les fréquences, et c'est elle qui définit les conditions techniques d'utilisation de nos fréquences. Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'ARCEP est notre autorité de tutelle, parce que c'est elle qui nous affecte les fréquences. Et donc, c'est donc ça, c'est écrit dans le 36.7 et le L42 du CPCE. Et donc, pour qu'elle prenne, affecter de nouvelles bandes, il faut évidemment qu'elle figure au TNRBF, et après que l'ARCEP prenne une décision qui sera homologuée par le ministre des Communications électroniques et publié au journal officiel pour qu'elle soit qu'on puisse s'en prévaloir. Donc ces deux missions de l'ARCEP, ça a permis à l'ARCEP de publier et de se faire homologuer la décision 12-1241 qui a été modifiée par deux fois, la 13-15-15 et la 19-14-12, puisque cette décision 12-1241 elle date de 2012 et que depuis 2012 on a eu deux bandes complémentaires, la bande 472 kHz et la bande des 60 mètres. Donc la 13-15-15 c'est la bande des 472 kHz et la 19-14-12 c'est la bande des 60 mètres. Donc en 2013 et en 2019. hein, puisque le numéro, les deux premiers chiffres, là, c'est l'année, et après, c'est le numéro de séquence de la décision publiée. Au niveau, donc, des autorités réglementaires, les autres autorités réglementaires, c'est le ministre chargé des communications électroniques, qui est, par définition, le ministre de l'économie et des finances, et il a un secrétaire d'État, qui est donc Cédric O, hein, j'ai mis la trombine des deux ici. Est-ce qu'ils ont sous le bras le dossier des radioamateurs qui est peu épais? Je n'y crois pas. À mon avis, ils nous ignorent complètement. Mais en tout cas, c'est le ministre chargé des communications électroniques qui fixe les conditions d'obtention des certificats d'opérateur et les modalités d'attribution des indicatifs. Donc ça, c'est valable pour les radioamateurs, mais pas que. Typiquement, la radio sur un bateau, c'est aussi ce ministre chargé des communications électroniques qui fixe les conditions d'obtention du certificat d'opérateur, puisqu'il faut avoir un certificat d'opérateur pour utiliser une radio sur un bateau, et puis les attributions d'indicatifs, puisque sur un bateau, encore une fois, il y a un indicatif, même s'il est peu utilisé, on donne souvent le nom du bateau, ou ce que l'on appelle le MMIC, qui est donc le MMSI, pardon, qui est donc un numéro d'indicatif de un numéro d'identifiant du bateau. Voilà, mais ça ressemble un petit peu à un indicatif. Et donc, en vertu de ce L42-4, il y a un arrêté du 21 septembre 2000 du Premier ministre, parce que à l'époque, on ne savait pas trop qui était chargé de ces communications électroniques, donc ça commence à dater un petit peu, et donc c'est le Premier ministre qui avait signé cet arrêté, et qui, donc, cet arrêté, il fixe les conditions d'obtention du certificat et d'attribution et de retrait des indicatifs. Donc, les conditions d'obtention du certificat, c'est quoi? C'est le programme de l'examen et le déroulé du programme de l'examen. Donc ça date de septembre 2000. Ça a été modifié par trois fois, en janvier 2009, en avril 2012 et en mars 2021. Mars 2021, ça a été pour la suppression du point négatif à l'examen, puisqu'il y avait un point négatif, ça a été supprimé en mars et mis en application en juin. Et puis, alors la DGE, alors elle n'est pas officiellement partie prenante, sauf que c'est l'administration finalement qui a une mission de conseil auprès de ces deux messieurs et qui prépare finalement les textes qui vont être signés et qui, enfin, prépare les arrêtés qui vont être signés par ces deux, par Bruno Le Maire et Cédric O. Donc même si ce n'est pas une autorité réglementaire, c'est l'administration finalement qui a derrière ces deux personnes. Et donc la DGE, donc c'est la Direction Générale des Entreprises, il y a un service à l'intérieur qui va gérer tout ce qui est attribution des fréquences, et notamment des indicatifs radioamateurs. Donc il y a un bureau ou une sous-direction qui va s'occuper de ça. La DGE fait plein d'autres choses par ailleurs. Comme son nom l'indique, Direction Générale des Entreprises, elle est plus axée entreprise que radioamateur, évidemment. Alors les anciens noms de la DGE, c'était auparavant DG6, puis elle s'est appelée DGE, puis DG type, et enfin elle s'est redevenue DGE. Donc elle a changé plusieurs fois de nom, mais c'est à chaque fois la même administration, et c'est en fait le même lieu, c'est Bercy, en clair. Alors, ils ont aussi des. Comment dire? Alors, concrètement, c'est donc Bercy, et ils ont aussi des bureaux à Ivry, le long de la Seine. Et donc, concrètement, le bureau qui gère les radioamateurs, enfin, la sous-direction qui gère les radioamateurs, elle est basée, elle, à Ivry. Mais, parce qu'il n'y avait plus suffisamment de place. Dans le paquebot de Bercy. Hein, ceux qui connaissent pas Bercy à Paris, mais c'est un truc, un bâtiment énorme qui est appelé le paquebot.
Il a même les doigts de pied dans la
mer. Et il a les doigts de pied dans la mer, dans la Seine. Donc, dernière autorité réglementaire qui s'intéresse à notre activité, c'est la NFR. La NFR, donc c'est l'Agence Nationale des Fréquences, donc FR comme fréquence, hein, c'est pas ANF, c'est NFR comme fréquence, et donc sa mission, c'est assurer la planification, la gestion et le contrôle d'utilisation des fréquences radioélectriques. Ça, c'est clair. Ça, c'est le L43, donc c'est un texte de loi, et on a un article en R. Alors R, on va voir tout à l'heure pourquoi. Pourquoi un R et pourquoi un D pour d'autres fois, mais ça c'est un article en R, donc c'est plus important, c'est un règlement. Mais cet article en R est défini encore une fois par c'est un arrêté du Premier ministre qui le définit. Et donc ce R 2044-11, super long quand même, il définit toutes les missions de la NFR. Alors, je vous ai pas mis toutes, hein, heureusement, sinon vous seriez parti en courant, mais je vous ai mis les principales. La 5 bis, lorsqu'une perturbation lui est signalée, elle instruit le dossier de brouillage. Le 10, elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences. Alors, encore une fois, c'est pas que radioamateur, c'est pour généralité, hein, tout ce qui est fréquence. Et enfin, le 14, et là, c'est plus spécifiquement radioamateur, mais pas que. Elle organise les examens donnant accès au certificat d'opérateur des services amateurs, délivre les certificats d'indicatifs et les indicatifs et procède au retrait de ces derniers. Donc, ce qui n'est pas dit là, c'est que, enfin, c'est une partie seulement, mais elle organise aussi les examens, notamment du CRR, donc la VHF marine. Et c'est pareil, elle délivre les indicatifs pour les bateaux, et les licences pour les bateaux. Donc voilà.
Mais
elle retraite, ça veut dire quoi? Quand on retire l'indicatif. Elle a le droit de retirer l'indicatif. Concrètement, j'ai jamais vu. Hein. Ça, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu. Mais elle se réserve, maintenant c'est logique, hein, si elle les délivre, elle peut aussi les retirer sous certaines conditions qui sont définies dans les textes, mais voilà. Et concrètement, à ce jour, j'ai jamais vu.
Tout le monde se tient à
Pas spécialement. Mais personne n'a été jusqu'au bout de la démarche de retirer un indicatif. Alors, par le passé, ça s'est fait. Et depuis 1997, donc la création de la NFR, je ne l'ai jamais vu. Donc, en conclusion, pour synthétiser tout ça, après vous avoir bien bourré le crâne, donc j'ai mes trois autorités, l'ARCEP, qui détermine donc les conditions techniques d'exploitation, concrètement la puissance, quelle puissance peut-on utiliser, quelle largeur de bande d'émission peut-on utiliser, l'attribution des bandes. Donc, les bandes sont attribuées par l'ARCEP. Le ministre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il détermine les examens d'opérateurs, donc les conditions et le programme des épreuves. Et la NFR, elle s'occupe d'organiser les examens, de délivrer les certificats d'opérateurs, d'attribuer les indicatifs d'appel. C'est deux choses différentes, hein. Le certificat d'opérateur, c'est vous qui avez le droit d'utiliser une station. Et après, on vous donne un indicatif. Ah, c'est bien deux choses séparées. C'est pas complètement pareil. C'est comme le permis de conduire et la carte grise de la voiture. Hein? C'est-à-dire que... Mais voilà, l'idée, c'est ça. La carte grise de la station. Et s'occupe aussi des brouillages, tout au moins faire en sorte de déterminer qui brouille et faire en sorte de supprimer les brouillages. Voilà. Comment ? Ah non. Le permis de conduire.
Oui, d'accord. Voilà,
voilà.
Après, un certificat de la voiture.
Ah voilà. Ça n'a rien à voir.
Oui.
Et c'est-à-dire que ton indicatif, il n'est pas lié à toi. Il est lié, alors, en théorie, à ton adresse. Parce que en ce moment, là, tu es en France métropolitaine, donc tu aurais un indicatif F4, J, quelque chose en ce moment. Mais si tu déménages et que tu vas partir en Martinique, ton indicatif F4J quelque chose, tu mets une croix dessus.
C'est la même chose, donc c'est un indicatif, par contre, le certificat d'opérateur.
Il bouge pas.
Il bouge pas parce que j'ai passé.
Voilà, t'as passé l'examen. T'as passé l'examen, tu l'as une fois pour toutes. T'as pas à le repasser une autre fois. Et d'ailleurs, c'est qui pose problème, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui imaginaient qu'on puisse faire une licence. Enfin, un certificat d'opérateur valable 3 ans, par exemple, du style novice, et passer l'examen supplémentaire au bout des 3 ans. En France, c'est pas possible. Puisqu'une fois que tu as un examen, en France, tu l'as à vie. Tu peux pas le retirer, tu peux pas faire quelque chose de temporaire. C'est pas possible.
C'est possible de prendre le certificat d'opérateur.
Et tu ne demandes pas.
Je ne demande rien. Je vais chez moi en Italie et je demande.
Exactement.
Un indicatif.
Ouais. Ouais.
Je demande un indicatif. C'est bien.
Ah, attends, je ne suis pas sûr que l'Italie, elle l'accepte.
Je trouve ça impossible parce que ce n'est pas la même chose.
Non, mais tu as des pays qui l'acceptent et d'autres pays qui ne l'acceptent pas. C'est tordu, ça, comme truc. En France, ça devrait pouvoir se faire.
Parce qu'en fait, l'examen, c'est pas pareil.
Ben non, il n'est pas pareil. Même si dans le texte, on doit avoir le même niveau, dans les faits, c'est pas le même niveau. Et puis, c'est pas organisé de la même manière. Là, c'est un petit rappel, alors c'est plus si vous voulez faire du droit constite. Voilà, donc c'est à la pyramide des textes. Donc vous avez la Constitution, c'est-à-dire que tous les textes qui sont votés doivent être conformes à la Constitution. C'est pour ça que, ici, quand on vote une loi, le Conseil constitutionnel vérifie que c'est bien conforme à la Constitution. Enfin, tout au moins, il y a des gens qui disent, enfin, des députés ou des sénateurs qui font appel au Conseil constitutionnel, au SAGE, pour savoir si c'est conforme ou pas à la Constitution. Il y a toujours des débats pas possibles autour de ces décisions du Conseil constitutionnel quand des fois il y a des textes un petit peu scabreux. Voilà. Donc, les lois sont votées par le Parlement, qui, je le rappelle, est composé du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Le Sénat, c'est des sénateurs. et l'ensemble forme le Parlement. Les textes proposés au Sénat et à l'Assemblée nationale doivent être votés dans les mêmes termes. Et si ce n'est pas voté dans les mêmes termes, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, les lois, derrière, elles sont généralement très... Enfin, ça donne le cadre. Et donc derrière, il y a le gouvernement qui sort des décrets d'application. Et certains décrets d'application, ce sont des règlements, c'est pour ça qu'on appelle ça R, et d'autres qui sont des décrets simples, c'est pour ça qu'on appelle ça D. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est qu'entre-temps, parce que les décrets, il faut qu'ils soient conformes à la loi. La loi elle-même, par définition, elle est conforme à la Constitution. Mais si des fois le gouvernement fait un décret qui n'est pas conforme à la loi, on peut aller voir le Conseil d'État qui statue et qui vérifie que le décret est bien ou pas conforme à l'esprit de la loi. Hein? Donc, le décret, c'est le Conseil d'État qui vérifie que c'est la loi, et la loi vis-à-vis de la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel.
Bon, ça c'est intéressant que tu fais de la politique.
Si tu es avocat. Pour ça. Voilà. Et donc, il y a quelquefois le décret, on ne sait pas trop comment réagir le Conseil d'État, et au lieu de sortir un décret simple et de se le faire retoquer par le Conseil d'État, on va avec son décret, on le présente au Conseil d'État, et on lui dit, « Monsieur le Conseil d'État, est-ce que vous êtes d'accord avec ce décret ?» Et si le Conseil d'État il dit « Ok », le Conseil d'État ne peut pas revenir sur sa parole. Il l'a donné, c'est bon. Et donc, pour montrer que le décret est conforme, a été validé par le Conseil d'État, on note ça avec un R. Et donc, ce sont des décrets en Conseil d'État, parce qu'ils ont été présentés au Conseil d'État avant leur publication au journal officiel. Et enfin, on a les arrêtés. Alors, les arrêtés du gouvernement qui sont publiés au journal officiel. Et puis après, il y a toutes les autres administrations, je dis n'importe quoi, la préfecture, la mairie, etc., qui pondent des circulaires, des décisions et aussi des arrêtés. Typiquement, ce que l'on va avoir pour la semaine prochaine, qui est donc l'utilisation du domaine public, ça va être un arrêté municipal. D'accord ? Monsieur le maire, il ne va pas demander au Conseil d'État est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Par contre, il y a peut-être un administré qui va dire « Ah, est-ce que l'arrêté de monsieur le maire, il est valable ou pas ?» Et dans ce cas-là, il ne faut pas aller au Conseil d'État, il faut aller au tribunal administratif. Et si on n'est pas d'accord avec la décision du tribunal administratif, on va à la cour administrative d'appel. Et enfin, si on n'est pas encore d'accord, c'est là seulement où on va au Conseil d'État.
Ça, ça arrive dans mon boulot pour faire les chantiers.
Mais
les barrières sur la route, donc, là, quand le chenot, alors là, c'est pas une arrêté municipale, c'est une arrêté du tribunal de l'administration.
Parce que,
on peut les mettre une barrière parce qu'on amasse sur une route
nationale. C'est sur une route nationale, et donc, c'est pas la mairie.
C'est l'arrière, c'est marqué,
c'est super. C'est un boulot. Hein. Et donc ça, c'est pour les textes français. Et bien s'insérer là-dedans les textes internationaux, parce que notre texte de l'UIT, là, notre RR, c'est un traité international. Et sur mon traité international, il y a une date à laquelle il doit être mis en application. Et donc ça revient, en fait... Alors, c'est un texte qui est entre la loi et le décret. C'est ce qu'on appelle une ordonnance. Donc, c'est un texte qui est signé par le Premier ministre et qui doit être ratifié, donc le Parlement doit le valider, entre guillemets, aux premières, le plus rapidement possible. Et en tout cas, c'est le Premier ministre qui prend une ordonnance pour mettre en route et mettre en place ce texte qui est obligatoire. C'est les fameuses directives là. Donc l'ERR est un traité international, donc il arrive directement là. Mais si derrière, par exemple, il y a une directive, je dis n'importe quoi, la directive RED, la Radio Equipment Directive, eh bien celle-là, elle doit être mise en place avant telle date en France, eh bien on ne fait pas une loi, on fait une ordonnance, puisqu'en fait on reprend bêtement le texte. Donc on fait une ordonnance, et cette ordonnance, après, elle est ratifiée par le Parlement. Et après, une fois qu'elle est ratifiée par le Parlement, on rajoute ça dans le texte de loi. Et c'est pour ça que quelquefois, ce sont c'est pas vraiment des lois. Le Parlement, il a juste donné son accord sur un texte qui est proposé par l'Europe ou les instances internationales. Et ça, ce n'est valable que pour les traités internationaux et les directives. Évidemment, si c'est une recommandation, un rapport, une norme, tout ce qu'on veut, ou une résolution, ça ne passe pas par ordonnance. Ce qui passe par ordonnance, ce sont les traités, les directives. Point barre. Et vous remarquez, là-dedans, je ne parle pas des décisions qui ont force de loi et qui arrivent directement dans mes textes français sans même passer par une ordonnance. Et c'est là où on a un petit problème, c'est que mon droit constitutionnel français n'est pas adapté. Bon, je vous ai un peu bourré le crâne avec ça. Heureusement, pas de questions à l'examen. Mais c'est pour vous... Non, mais c'est pour... Voilà, c'est un peu pour vous donner la complexité des textes. Et qu'il faut bien voir de quel texte on parle et à quel niveau on est. Les quelques questions posées à l'examen sur ce qu'on vient de voir, de quoi traite le S156 du RR, définition du service amateur, conditions d'exploitation des stations du service amateur, bande de fréquence autorisée au service amateur ou programme de l'examen harmonisé. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était la définition du service amateur. Les conditions d'exploitation du service amateur, ça c'est le S25. Les bandes de fréquence autorisées au service amateur, bah c'est soit le S5 du RR, mais souvent c'est des textes plutôt nationaux. Et le programme d'examen harmonisé, ça c'est un document, c'est un texte CEPT, et pas international, pas UIT. RR c'est UIT. Quel est le but du radioamateurisme? Instruction individuelle des techniques radioélectriques, vendre du matériel d'émission, émettre sur la bande FM, contacter des amis. Évidemment, c'est le premier. Hein, on reprend la définition qu'on a vue, qui est très simplifiée là, mais c'est la définition, une partie de la définition qu'on a vue tout à l'heure. De quoi traite le S25 du RR? Ben non, mais... Mais oui, mais c'est le piège.
Ils sont tous des amis.
De quoi traite l'article S25 du RR? Des conditions d'exploitation des stations du service amateur, on l'a déjà vu là-dedans. De quoi traite la résolution 644? Alors la 644, entre parenthèses, elle a été abrogée. On parle aussi dans les questions d'examen de la 640 qui est encore abrogée depuis encore plus longtemps, et on ne parle pas de la 646 qui est en vigueur. Enfin, en tout cas, la 644, elle parlait des moyens de communication pour l'atténuation des effets de catastrophe et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. Elle a été abrogée en 2003.
Et continue à poser les questions ?
Ah bah oui. Comme sur la 640 qui a été abrogée en 99. Bon. Enfin bon, mais ça me fait doucement marrer, mais bon. Peut-être pas certain qu'il passe l'examen. C'est pour ça que je les note, parce que c'est des cas. Dans quel cas un radioamateur a-t-il le droit d'émettre hors du périmètre de la décision S156 de l'UIT? Eh bien, en cas de catastrophe, on a le droit de passer des communications de personne à personne. Enfin, de tiers, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire, telle personne, enfin, je passe le message comme quoi je vais bien. Mais c'est un tiers, ça. Et normalement, on n'a pas le droit de le faire puisqu'on ne doit parler que de technique radio, nous. On n'a pas le droit de passer nos messages personnels. Et encore moins le message personnel de tiers. Donc ça, c'est le seul cas où on a le droit d'émettre hors de ce périmètre. Voilà. De quoi traite la recommandation TR6101 de la libre circulation des radioamateurs au sein de la CEPT, du programme de l'examen de la licence CEPT? Non, on a commencé par la libre circulation et après on a défini le programme. Donc 6101, libre circulation, 6102, le programme. La recommandation 6102 définit les trois classes du service d'amateur. Définit la classe 1 et la classe 2. Définit la classe 3. La recommandation ne traite pas des classes françaises du service d'amateur. La CEPT n'a pas à regarder ce que fait la France. c'est pas son rôle. Donc c'est la réponse D, la recommandation ne traite pas des classes françaises du service d'amateur. Puisque ça, c'est typiquement un système de classification qui a existé. Comment? Ah, non, France. France. Alors oui, parce que ça, on a un cas particulier, c'est que, du coup, quand tu es en Martinique, tu es redevable de la CEPT. Quand bien même la Martinique, c'est pas vraiment l'Europe. Et de même, si t'es à Tahiti, c'est encore CEPT. Alors que Tahiti, on peut pas dire que c'est vraiment l'Europe. Ouais. Non, mais c'est... Alors, il n'y a guère que la France qui fait ça, puisque, par exemple, les Pays-Bas qui ont des petites îles aussi dans les Antilles, Aruba, Bonaire, je ne sais plus, de Curaçao, Saint-Martin, voilà. Eh bien, tout cela ne font pas partie de la CEPT. Il y a des conventions à part. Ils ont séparé leur outre-mer.
Là où le volcan s'est réveillé, là.
Ouais.
C'est pareil alors.
Ouais. Combien de classes à REC la recommandation TR6102 définit-elle? En fait, y a pas de classe, elle définit pas ça, puisque il n'y a pas un nombre de classes à REC. Il n'y en a qu'une seule, c'est le programme de l'examen. Donc, elle ne traite pas de ce sujet. Même si finalement il n'y en a qu'une seule. Enfin, c'est là où je sais pas trop quoi répondre. Soit c'est elle ne traite pas de ce sujet, soit c'est une. Et alors là, là, parce qu'auparavant il y avait bien deux classes. Il y avait A et B, A avec morse, B sans morse. Maintenant il n'y en a plus qu'une seule puisqu'il n'y a plus de morse. Mais en même temps, elle ne traite pas de ce sujet. Donc, voilà. Ben, je suppose. Mais j'aurais tant... Enfin, je... Voilà, quand j'ai une question comme ça, je ne sais pas quoi répondre. C'est une question tordue, ça. Parce qu'à la limite, il y a les deux réponses possibles. Quelle est l'autorité qui délivre les licences en France? Évidemment, c'est la NFR. Ce fut à un moment le ministre chargé des communications électroniques, ça a été arrêté en 2015 par là. En fait, concrètement, avant, il y avait un parapheur qui partait de Villejuif, là où il y a la NFR, et qui allait à Bercy pour signer tous les certificats d'opérateur, toutes les notifications d'indicatifs d'appel. Quelquefois, évidemment, le parapheur était paumé. Tant qu'à faire, c'est mieux, c'est plus rigolo. Et si bien que fallait compter 2 mois à peu près entre le moment où on passait l'examen et le moment où on recevait l'indicatif. Maintenant, c'est la NFR qui fait tout. Et donc, dans les 15 jours suivants, on a l'indicatif. Quelle est l'autorité de tutelle des radioamateurs? C'est l'ARCEP. Bien que l'ARCEP... Alors, ce qui me fait marrer, c'est qu'on dit ça. Et dans le dernier... dans le dernier rapport annuel de l'ARCEP, qui fait quand même quelque chose comme 500 pages, voilà, on cherche dedans, il n'y a aucune ligne sur les radios amateurs. Aucune. Donc, voilà, autorité de tutelle des radios amateurs, c'est pour ça que je dis, l'ARCEP nous ignore complètement.
Mais on parle où ?
Bah oui, mais enfin bon. Ah bah oui, au cas où, oui. Oui, puisque c'est eux qui déterminent les fréquences qu'on utilise et les conditions d'utilisation de ces fréquences. La base de la réglementation radioamateur nationale, donc là, française, c'est bien un texte de loi français, donc ce n'est ni le RR, ni le S156 qui est une partie du RR, ni la TR6102 qui est un texte CEPT, c'est le L33.3. Ça, c'est facile à se souvenir, ça. L33.3, c'est le fameux librement établi. Les bandes de fréquences appartiennent à l'Europe, l'État, la France, aux associations de radioamateurs. Les bandes de fréquences en France appartiennent à la France. C'est le domaine public. Et en Belgique, ça appartient à la Belgique. Alors, quand on est à la frontière entre les deux, là, c'est là que ça se complique.
Voilà, là où on regarde le sous-terrain de la télé.
Voilà. Et quand on est sur un satellite, eh bien, c'est la nationalité du satellite. Et quand on est sur un bateau, en dehors des eaux territoriales, c'est le pavillon du bateau.
Radio Caroline.
Voilà.
Non, ça, elle n'est pas la même chose.
Rien de spécial là-dedans. Alors, dans le cours, j'ai mis il y a 3 pages, même plus, je crois, 4 presque, sur l'histoire de la réglementation. Qui est, au début, c'était que la réglementation française. Et puis, c'est devenu maintenant, j'ai appelé ça histoire de la réglementation du radioamateurisme français, mais c'est beaucoup, beaucoup plus large que la réglementation, puisque c'est plus une récapitulation de toutes les grandes dates de la radio, mais pas uniquement radio d'amateur. Voilà. Donc là, je vous ai rajouté, je me suis concentré là sur radio d'amateur, mais dans le bouquin, y en a un peu plus. Voilà, de temps en temps, quand j'ai des informations complémentaires, je les mets. Mais voilà. Je vais regarder s'il y a du commentaire particulier. Non. Alors, début de la radio, en fait, la radio, ça va commencer d'abord par l'électricité, c'est mieux. Et donc, le premier pas des expériences en électricité, c'était de créer une source de courant. C'est bête et con, mais il fallait d'abord créer une source de courant. Et donc la source de courant, elle est inventée par Volta en 1801. Le problème, c'est que Volta, il ne sait pas quoi faire de son invention. Et tout le monde s'en fout. Surtout. Et il faut attendre 20 ans pour avoir une première idée de ce que l'on peut faire avec sa pile.
En fait, il avait la pile, mais il ne pouvait pas l'employer.
Ben, ça, personne ne savait quoi faire avec ce truc-là. Les seules choses qu'ils ont arrivé à faire juste après, c'est la fameuse expérience sur la cuisse de la grenouille. Là. C'est-à-dire qu'on dépeçait la cuisse de la grenouille, on foutait la pile sur son muscle et puis on voyait le muscle se contracter. Donc sympathique comme expérience, mais qui mène pas à grand chose. Il faut attendre 1820 pour qu'il y ait un mec un petit peu un uluberlu qui s'appelait Ørsted, un Danois, qui avait sur son bureau à la fois une pile, un fil électrique et une boussole, que c'est un joyeux bordel sur son truc et qui à un moment s'aperçoit que la boussole elle varie quand le fil électrique touche la pile. Il dit, mais c'est quoi ce bordel? Donc, et ça, il faut attendre 20 ans quand même pour ce truc-là. Et seulement à partir de là, l'électricité, on a commencé à découvrir l'électricité. Et finalement, il faut attendre quand même pas mal de temps, puisqu'il faut attendre 1896 pour que Marconi fasse ses premières expériences à Bologne, sur 3 km.
Ça, c'est un peu faux. Parce que ce n'était pas passé à Bologne, c'était passé à Livourne.
À Livourne, voilà.
Livourne, c'est où il faisait l'université. À l'université, il faisait ses petites expériences.
Voilà.
Sauf qu'il avait un petit délai. Après l'école, il se faisait une heure tous les jours pour voir. C'est là qu'il avait découvert. Après, il a dit, bon, vu qu'on arrête l'école, maintenant je vais tout transférer chez moi dans l'école. À Bologne, où il
a oui, parce que lui,
il a fallu son appareil, et là, il a fait sa première démonstration, puis ça l'a fait.
Oui, mais
démonstration
là...
à lui-même,
ouais, ouais.
Officiel.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais.
Parce que j'ai vu au musée, en fait, c'est toujours marqué comme ça, même en Italie, c'est marqué que c'était à Bologne. Parce que c'est lui qui avait décidé de vivre à Bologne, parce que lui, il habitait à Bologne.
Oui, mais peut-être, mais quand il faisait ça à Livourne, c'était pas sur une si grande distance. C'était au sein de l'université.
Ah oui, oui.
Alors qu'à Bologne, c'est sur 3 km.
Oui, environ, oui, parce que je suis de l'autre.
C'est sur 3 km. Donc là, ça commence à devenir vraiment important. Et un an et demi après, il y a la même chose qui est faite à Paris par Branly et Ducretet entre la Tour Eiffel et le Panthéon. Là, c'est 4 km. Voilà, donc là, et voilà, et on commence à ce moment-là seulement à utiliser la radio. Voilà. Et 1899, Marconi, parce que en fait, Marconi, c'est surtout un bon industriel. Il cherche à faire du fric, lui. Et comme il a été rejeté d'Italie, il va vendre son système en Angleterre, au Royaume-Uni. Et donc, il fait la première liaison transmanche, parce qu'auparavant, il y avait un câble qui traversait la Manche, mais tous les hivers, avec la tempête, le câble y cassait. Et donc, pour faire que les télégrammes puissent marcher, eh bien, il fait sa première liaison radio transmanche, donc entre Vimereux en France et Douvres en Angleterre.
C'est à son avantage qu'elle a vendu le temps.
Voilà.
Je l'ai, je l'ai sous le mode dans sa douche ou en.
En morse, ouais, ouais.
En morse.
Ah, ouais, oui. C'était en morse. Ah, oui, il n'y avait pas de folie à l'époque. Après guerre 14-18, là, même chose, dans les tranchées, il faut envoyer les ordres. Donc soit c'est des fils et puis les bombardements, il faut tout repasser les fils, ou alors, on met en place des systèmes de radiocommunication. Problème, c'est que l'ennemi, il capte aussi des instructions. Donc il faut faire du codage, du cryptage. Voilà. Donc, et puis surtout, fin 1918, il y a un stock énorme de matériel, parce que ça a été construit surtout dans les dernières années de la guerre, et il y a un stock énorme de matériel disponible, parce qu'il y a des usines complètes qui ont été montées, notamment à Lyon, pour faire les fameux tubes, qui n'existaient pas en 1899. Le tube a été inventé juste un peu avant la guerre. Et 1922, avec tout ce matériel qu'on a, eh bien, ce sont les premières émissions de radiodiffusion en France depuis la Tour Eiffel. Et Eiffel qui s'est bien débrouillé, puisque sa tour devait être démolie après 20 ou 30 ans, je ne sais plus, son exposition universelle, et elle reste grâce à la radiodiffusion, puisqu'il fait installer les studios dans les piliers de la Tour Eiffel. Il faut croire que c'est le pilier nord où il y avait les studios d'émission de la radiodiffusion. Et donc 1922, alors plus précisément, c'est en juin 21 où la première émission est faite par Radiola. Radiola, c'était celui qui fabriquait les postes de réception. Et donc, pour vendre ces postes de réception, il a fait une démonstration d'un concert en juin 1921. Donc, il avait réuni plein de monde à Paris et il les faisait écouter un concert qui était donné à Levallois. Et donc, tout le monde était, enfin, tous les bourgeois qui étaient dans cette salle, ont tout de suite sorti leur carnet de chèques pour acheter le matériel de Monsieur Radiola et écouter des premières émissions de radiodiffusion en janvier 1922. Ensuite, 1923, juste après, parce que à l'époque, on pensait que c'était que les émetteurs, c'était juste autour de la station d'émission. Et en 1923, qu'est-ce qui se passe ? On a deux radioamateurs qui arrivent à se contacter de l'autre côté, enfin un contact transatlantique. Et on découvre avec stupeur que les ondes, elles peuvent aller très loin. Et donc, le gouvernement est obligé de réglementer un peu tout ça, parce que ça part un peu... Tout le monde commence à partir dans tous les sens, là. Hein, c'est le début de la radio, là, tout le monde commence à partir dans tous les sens. Donc, il y a un arrêté, un décret de 1923 qui fixe les conditions de délivrance du certificat d'opérateur. Voilà. Et les conditions d'utilisation d'une station d'amateur. Et donc, la tutelle des radioamateurs est confiée à la direction de la, TSF qui est rattachée au ministère des Postes. Et jusqu'en 1923, on a des indicatifs de ce type-là, c'est-à-dire qu'on a un chiffre seulement pour déterminer le pays. Le problème, c'est que chiffre, vous en avez 9, et puis après, c'est foutu. Enfin, 10 avec le 0. Et il y a un peu plus de 10 pays. Et donc, en 1928, il faut attendre 1928, alors, il y a une conférence internationale de Washington qui définit un préfixe avec des lettres par pays, avec deux lettres par pays. Et la France obtient la lettre F. Et donc, le est 8AB, donc ça c'est sa carte QSL, 8AB, devient F8AB. Et l'Américain qui était 1MO, alors les Américains, eux, ils obtiennent 4 lettres, W, N, K. Alors, je ne sais pas ce qu'a obtenu un MO, je ne sais pas si c'est W, K ou N. Voilà, donc 1928, on a des indicatifs avec la lettre F pour la France.
Je me rappelle plus, c'est pas le
Le 8, ben c'est comme en Sibie, le 14 pour la France. Voilà, 8 pour la France. Alors pourquoi 8 aussi? C'est que la plupart des radioamateurs avaient fait, pendant la guerre 14-18, étaient au 8e régiment de transmission. C'était le 8e régiment de génie, qui donc au début posait les lignes de téléphone, et qui, à la fin de la guerre, s'appelle le 8e régiment de transmission.
En Italie, ça fait l'honneur pour avoir la région de 1 pour 8.
Oui, mais en Italie, c'est pareil, c'était le 1. Enfin, tout au départ, c'était le 1 italien.
Après, c'est 8 en Italie.
Ben oui, voilà.
Mais si en France, ils sont mis le 8 pour la France, là, ils sont mis les numéros chaque région.
Chaque région, oui.
En Italie, ils ne savaient pas s'il va rester en Italie.
Ben oui ou pas. Donc chacun. Voilà. Donc, en 1930, les textes de 23 sont changés, mis à jour. Et donc, cet arrêté du 10 novembre 1930, il va rester en vigueur jusqu'en 1983, 50 ans.
Avec l'interruption
39-45, mais c'est parce que l'émission d'amateur est interdite pendant cette période. Et donc c'est toujours le même texte. Et ce texte, il dit quoi? Il dit que l'examen morse, c'est 10 mots minutes, que c'est fait par un examinateur qui vient à domicile, etc., etc. Oui, qui venait à domicile pour contrôler ta station. Parce que son boulot, c'était pas trop contrôler tes connaissances, c'était contrôler ta station. Puisque moi, j'ai obtenu mon examen en 83. Et en fait, voilà, il posait 3-4 questions, comme ça. Alors, peux-tu m'expliquer, je sais pas quoi, le circuit oscillant? Qu'est-ce que tu peux dire sur le circuit oscillant? Il fallait sortir. Qu'est-ce que tu peux dire sur un câble coaxial? Il fallait sortir 3-4 formules, 3-4 des choses que tu savais. Comment tu peux faire un neutrodinage sur un tube? À l'époque, c'était encore les tubes, les transistors, on n'en parlait pas trop. Donc voilà, c'est des questions comme ça, plus un examen de morse, évidemment, et contrôler la station. C'est-à-dire qu'il fallait venir avec son émetteur. Récepteur, il s'en foutait. C'était l'émetteur qui l'intéressait. Et expliquer comment fonctionnait la station. Donc il fallait surtout venir avec quelque chose le plus simple possible. Oh ben non, moi j'avais une station complète. Hein. Moi j'avais un TS-120. J'avais un TS-120 à l'époque. Oui. Oui, mais j'avais pas présenté mon TS-120, je vais te dire. Parce que c'était un truc assez compliqué avec un PLL et tout ça. Donc moi j'avais présenté la station du Radio Club. Qui était un petit oscillateur à quartz qui sortait 5 watts sur 2 fréquences. Et bon. Et en fait, tout le monde présentait ce matériel. Parce qu'il n'y avait pas de questions à poser dessus, c'était con. C'était bête et con. Alors que si tu présentais une station commerciale, au secours, tu te faisais rétamer à coup sûr. Parce qu'évidemment, lui, il était. Enfin, voilà, il titillait et il disait, bon, alors le transistor là qui est là, il sert à quoi? Et là, tu te fais dans le caca parce que tu étais incapable de répondre. Bon, donc pour revenir à notre chronologie, là, donc après les F8, parce qu'il y avait deux lettres derrière, donc ça va assez vite, à partir de 1933, on a les F3, puis des F9, puis des F2, toujours à deux lettres, des F5 à deux lettres, et à partir de 67, on s'aperçoit que les deux lettres, ça va tellement vite qu'il faut trouver un autre système, on met 3 lettres. Donc c'est à partir de 1967. En 1973, la DSR devient la DTRI, puis la DTRE. Donc ça change juste de nom. Et c'était l'administration de tutelle, qui était une émanation du ministre des Postes et Télécommunications. Et en 83, grand chambardement, le système qui consistait à faire tourner des examinateurs dans toute la France est arrêté et on passe à un examen, un vrai examen, en QCM. Au départ sur papier et 2 ans après, en 85, sur Minitel. Pour le Morse, c'était sur un magnéto à cassette. Toujours à 10 minutes. Bon, quelques péripéties parce que la tutelle est balancée à la DRG, au CSA, enfin voilà, c'est un peu compliqué, c'est une période un peu compliquée. Avec aussi une classe novice qui est créée et avec des changements d'indicatifs. Donc à un moment, mon indicatif est devenu FE6GTX, parce qu'il y avait le E. Et donc à un moment, il y a eu 5 classes d'opérateurs. Il y avait 2 classes d'opérateurs novices, des novices télégraphistes et des novices téléphonistes. Donc, c'est un peu compliqué. 93, on revient à un indicatif à une seule lettre, donc le F, et c'est le chiffre qui donne la classe d'opérateur, et c'est le système qu'on a actuellement. C'est avec le chiffre qu'on détermine la classe d'opérateur. En même temps, en ce moment, il n'y a plus qu'une seule classe d'opérateur, donc c'est facile. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on trouve des fois des QSL avec les 2 lettres là. Ou là, FB. FB1 IQS. Et 97, création de l'ART, l'ancêtre de l'ARCEP, qui a été changé. Qui a été rechangé depuis, et l'ART avec 3 textes, un texte qui détermine les fréquences et les puissances, un texte qui détermine les conditions techniques, et un texte qui détermine les organisations des épreuves. Le problème, c'est que ces textes-là, ils ne sont pas conformes finalement au texte, donc ça a été retoqué par le Conseil d'État. Les décisions qui ont été homologuées, il y a eu. Elles n'étaient pas conformes au Code des postes et communications électroniques. Parce qu'il y a un mec qui a été cherché. Et qui a dit, on va aller. Donc d'abord, ça a été au tribunal administratif, puis à la cour d'appel administrative, puis après au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, le Conseil d'État a dit, c'est pas conforme à la loi. En 2000. Et donc, ce qui était conforme, c'était les fréquences, les puissances autorisées et les conditions techniques. Donc, il y a eu une nouvelle décision ARCEP qui a défini ces 2 choses-là. Et l'organisation des examens s'est passée au Premier ministre. C'est pour ça que l'arrêté du Premier ministre il date de septembre 2000, puisque le recours en Conseil d'État a eu lieu en 2000. Voilà. 2003, c'est important. L'ERR n'exige plus la connaissance du Morse pour utiliser les bandes décamétriques. Et donc, le texte français est modifié en mai 2004. Il faut attendre un petit peu quand même. Il faut toujours attendre en France. Depuis mai 2004, tout le monde. Même ceux qui ne connaissent, qui n'ont pas eu l'examen de Morse peuvent émettre en décamétrique, ce qui n'était pas possible avant. En 2008, le Minitel est abandonné, remplacé par un ordinateur. Donc c'est le système qu'on a actuellement là. C'est exactement la même chose depuis 2008. La présentation des écrans sur le logiciel NFR n'a pas été modifié. en 2009, en février 2009, on rajoute l'attribution et le retrait des indicatifs. Donc le retrait des indicatifs, surtout ce qui est important, c'est pas trop l'attribution, c'est surtout le retrait. C'est-à-dire qu'auparavant, avant 2009, on ne pouvait pas retirer un indicatif, ce n'était pas possible, ce n'était pas prévu. Maintenant, on peut le faire. 2010, l'extension de la bande des 7 mégas. 2012, la suppression des classes 1. Donc, classe 1, c'est le morse, et classe 3, c'est novice. Donc, ça va faire bientôt 10 ans.
Avant le 2010, il n'avait pas la 7 mégas.
Non, ça allait de 7 à 7 mégas 100.
Ah,
Et il y a
et
eu
maintenant c'est
100 kHz de plus
et
en
le morse?
2010. Le morse.
Alors, c'est double. Alors, il y a 7
Ah, le ben, l'ANFR ou
non,
le
parce que je voulais dire, c'est que
TNRBF.
sur le 7 mégas,
Ouais.
ben, 7.
Mais le, enfin, la répartition à l'intérieur de la bande, la répartition des différents types de transmission, ce n'est pas défini par par l'ARCEP. C'est un problème Yaru. C'est les radios amateurs entre eux qui se mettent d'accord. Mais l'ANFR n'a rien à dire. Voilà. Si tu émets en morse à la fin de la bande, l'ANFR ne peut rien te dire. Et n'a pas à faire. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que si en plus des bandes, il faut que tu apprennes les plans de bande, là c'est au secours. Hein. Là tout le monde fuit, là.
Bon, moi j'ai tout même envie de dire en fait,
Oui,
mais j'ai
en
envie de dire
décamétrique.
qu'est-ce qu'on utilise
Voilà, oui, non, mais.
parce que moi je n'ai jamais vu marquer à le temps.
Non, 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 non. Et puis en plus, ces sujets, ça fait que de changer mais régulièrement. Hein. Donc en plus, avec les nouveaux modes qui arrivent, qui s'insèrent un peu partout, voilà. Et puis après, donc il y a eu différentes bandes qui ont été attribuées. La suppression de la taxe radio amateur. Supprimé en décembre 2018. Alors là, un petit peu par hasard, parce que tous les ans, bah, il y a la loi de finances qui est votée par le Parlement. Et là, en 2018, voilà, il y avait un certain nombre de taxes à faible rendement qui étaient enfin, supprimées. Mais au départ, la taxe radio-amateur n'était pas dedans. Et tout d'un coup, je ne sais pas comment, pourquoi, elle est arrivée là-dedans. Ça a été présenté au Sénat. Le Sénat, enfin, a
En
donné son
supprimant la
accord.
taxe, il a
Ça
supprimé
a renvoyé à l'Assemblée nationale qui, vas-y, on y va. Et on s'est retrouvé en décembre, enfin, on s'est retrouvé, c'est surtout la NFR, qui s'est retrouvée un peu bête en décembre en disant, bah, parce qu'en plus, la NFR avait envoyé les licences, puisque c'était valable pour un an, donc ils l'avaient envoyé en novembre ou en décembre, ils avaient envoyé tous les papiers, et fin décembre, on leur annonce, ben non, c'est d'application tout de suite, donc votre taxe annuelle que vous avez envoyée, ben...
Donc, à ce jour, là aussi, il avait envoyé, je crois.
Mais oui!
Et ça n'a pas été encaissé ou
Ah ben, et puis en plus, il y a des gens qui avaient envoyé le chèque et qui voulaient... Il
oui,
avait
toujours, il
encaissé.
avait envoyé le chef. Je crois qu'il n'a pas été encaissé, il le sent
Voilà, et
revenir en
puis
arrière.
voilà. Il y a eu un bordel avec ce truc-là. Pardon, voilà. Et là, donc, dernièrement, il y a la suppression du point négatif en cas de mauvaise réponse qui a été supprimée suite à une modification de l'arrêté du 21 septembre 2000. Voilà. Donc, c'est. Voilà où nous en sommes actuellement et les dossiers en cours. Alors, les dossiers en cours, on en a toujours un petit peu. La connexion d'un émetteur à Internet, c'est toujours pas autorisé, même si c'est dans les faits, il y en a beaucoup qui le font. Voilà, c'est toujours pas prévu. Bon, en même temps, j'ai jamais vu de sanction. Donc, voilà. Mais en tout cas.
Ce pays, comment ça marche?
Ah ben, c'est autorisé partout. Oui, il n'y a qu'en France que c'est pas autorisé.
Mais c'est pas interdit non plus.
Alors là, et voilà, ça c'est. C'est marqué quand même dans une décision. Hein, alors la décision, on pourrait la montrer au Conseil d'État qui pourrait dire que c'est pas valable. Mais on va peut-être pas si. On l'a fait une fois et la conséquence, ça a été fermeture des centres d'examen tant que le Conseil d'État n'a pas statué, donc pendant un an. On va peut-être pas recommencer le truc. Mais voilà. Voilà, il y avait eu un projet de texte qui avait été présenté il y a de ça un peu plus de 3 ans, et en juin 2018, et depuis, no news, silence radio, comme on dit. Y en a qui prêchent, dont moi, pour une réintroduction d'une classe novice, peut-être différente de celle qui existe auparavant, mais qui permettrait surtout une progression dans les classes d'opérateurs français. C'est-à-dire que maintenant, faut et connaître la réglementation et la technique pour. Donc c'est un peu beaucoup à apprendre. Est-ce qu'une sorte de progression comme c'était avant, puisque avec la seule réglementation, on avait cette fameuse classe novice, même si on doit peut-être changer le programme de l'examen, voilà, ça pourrait être. Une solution pour ceux qui n'ont pas un niveau technique énorme. Voilà. Ça, c'est une question. Donc, comment le faire? Il y a aussi la possibilité.
Moi, je pense qu'un jour, ils vont enlever les problèmes techniques.
Ben, je sais pas, mais en tout cas, dans ce cas-là, non, mais si tu retires les. Mais si tu retires les preuves techniques. Attends. Andrea, si tu retires l'épreuve technique, tu n'es plus conforme à REC.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que tu vas faire pour aller à l'étranger? Eh ben, tu ne pourras pas.
Mais une épreuve technique, ça a été fait à l'époque, et puis tu construis ta propre poste, et tu ne
réponds pas. Ben, donc la première chose à faire, peut-être, dans ce cas-là, la première chose à faire n'est pas de changer la réglementation française, c'est la réglementation européenne. On ne faut pas mélanger les genres. Parce que si tu supprimes la partie technique en France, ta licence n'est plus à REC.
Ah, en plus, quand on dit technique, il y a des questions. On dit que pour moi, ça
fait... Ah, mais peut-être.
Ah, oui.
Mais il n'empêche qu'on se base sur le programme à REC qui a été défini en 85 quand même. Hein. N'oubliez pas. Donc, 85, la technique, elle a un peu évolué. Alors, même si le programme s'est mis un peu, enfin, il y a eu un peu de toilettage et quelques thèmes qui ont été ajoutés, notamment traitement numérique du signal, mais voilà, il y a encore pas mal de choses qui sont des vieux items qui pourraient être modifiés facilement. Bon, après, on peut en débattre pendant des heures. Mais un truc différent.
Comme en Amérique.
Voilà. Un truc, typiquement, moi, l'idée, la progression comme aux USA ou au Canada. Puisqu'ils ont 3 classes. Hein, la fameuse technicienne, qui n'est pas du tout technicienne, général, qui voilà, qui est pas trop mal, et advanced, qui est un tout petit peu plus costaud que la nôtre. La différence fondamentale par rapport à nous, c'est que eux, la base de données des questions, elle est publique, elle est fixée, tout le monde la connaît. Alors bon, il y a 1500 questions, ok, mais et par contre, elle est un peu plus, enfin, l'examen en lui-même est un peu plus compliqué. Pourquoi? C'est qu'il y a 40 questions et qu'il faut au moins 15 sur 20. C'est la note qui n'est pas pareille. Nous, en France, c'est 10 sur 20. Donc tu peux faire des impasses. Aux États-Unis, c'est un peu compliqué de faire des impasses. Enfin, tout au moins, il faut en faire une ou deux maxi. Parce que sinon, après, t'es certain de te planter. Et même chose au Canada, c'est pareil, ça va, ça marche de la même manière. Et dans beaucoup de pays européens, c'est comme ça que ça marche. Hein. Et la différence fondamentale aussi avec la France, c'est que aux États-Unis, c'est organisé par l'ARRL, les examens. Donc l'association des radioamateurs américains. Donc voilà. Dernier point, et ça c'est à mon sens le point le plus important sur lequel il faut être très très vigilant, c'est l'avenir de la bande 1 giga 2, enfin de 1.240 à 1.300, plus précisément ici de 1.260 à 1.300. En bleu là, c'est les services de Galileo. Alors, le G2 là, ça c'est GLONASS, donc c'est le système de GPS russe qui est pas trop méchant, mais qui est en partie sur la bande radioamateur, donc qui pourrait perturber. Mais en Europe, il y a très peu de gens qui utilisent GLONASS, enfin, même en France d'ailleurs. Donc voilà, c'est un système purement russe. Le GPS n'est pas du tout là, le GPS c'est des bandes en jaune, là. Donc on n'est pas du tout sur des bandes radioamateurs. En revanche, Galileo, donc le système européen, il est pile poil au milieu de la bande radioamateur. Et il y a eu, soi-disant, des problèmes de brouillage de Galileo par des stations d'amateurs, notamment en Italie. Alors, quand on pose la question, quel était ce problème et qu'est-ce que ça a généré comme problème derrière, parce que si c'est juste du brouillage ponctuel, ok, parce que le GPS, là, c'est pour savoir où est la bagnole, quoi.
Pas que ça.
Mais c'est essentiellement... Parce que là, en l'occurrence, le E6, là, parce qu'il y a différents types là, de GPS, et le E6, là, c'est pour la position très précise à quelque chose comme 4 mètres près. Et donc, c'est typiquement pour les voitures sans conducteur. Donc, faut pas... Voilà. Alors, il n'y a pas que les radioamateurs sur cette bande-là aussi, attention, hein. Mais peut-être que, comme... Galileo est un système européen, peut-être qu'au niveau CEPT, la CEPT va dire les radioamateurs, on ne veut plus vous voir sur cette bande-là. Enfin, les radioamateurs et tous les autres utilisateurs de la bande. Parce qu'on n'est pas les seuls, on est secondaire, mais on a d'autres utilisateurs sur cette bande-là. Donc le risque, c'est surtout ça. Et en tout cas, pour la prochaine CMR, il y a au moins 3 résolutions qui parlent de ce problème. Donc en ce moment, on est dans les dossiers techniques. C'est-à-dire qu'en fait, on monte un dossier technique pour montrer que les radioamateurs ne peuvent pas poser préjudice à Galileo. Ou tout au moins, s'ils portent préjudice, ça ne va pas mettre en péril... Enfin, le système, parce que si la voiture perd son signal GPS pendant, n'importe quoi, 10 secondes, est-ce que pour autant ça va créer un problème? J'espère que non. Parce que dans ce cas-là, la voiture sans conducteur, au secours, hein, faut pas qu'elle passe sous un tunnel. Voiture, hein. Enfin, peut-être, moi, après. Non, mais après. Après, voilà, parce que t'as la fameuse voiture autonome au bois de Vincennes, là, qui marche avec le GPS, avec Galileo. Elle est conduite comme ça, elle n'est pas conduite par le sol. Enfin, il y a des capteurs, mais elle est guidée par GPS. Donc, ça, c'est un truc à aller voir, ce truc-là, la navette, là, dans le bois de Vincennes. Mairie de Vincennes, à château de Vincennes, il y a une navette autonome.
Jusqu'où ?
Jusqu'au lac de la Porte Jaune.
Il n'a pas très loin.
Elle fait quand même 2 km. Hein.
Ah oui, oui.
Elle fait quand même 2 km. Hein. Elle est autonome. Alors elle ne va pas très vite. Hein.
Ouais.
Mais en fait, elle ne va pas. Enfin, elle va comme quelqu'un qui court. Elle doit faire du 10 km/h maxi. Oui, ben, d'accord. Mais là, il n'est pas encore mis en service. Là, mais là, en l'occurrence, ce système-là, il est mis en service. Ça marche.
Comme ça, finalement, ça permet de la grève des transports.
Attends, on a dit ça avec la ligne 14 du métro qui est une ligne automatique. Ouais. Quand il y a des grèves, excuse-moi, elle est arrêtée. Hein. Je veux pas critiquer, tout au moins, si elle n'est pas arrêtée, elle est largement. Il y a beaucoup moins de trafic. Hein. Enfin bon. Voilà. Là, on en est à monter des dossiers techniques pour montrer que le service d'amateur n'est pas, ne pose pas problème. Est-ce que ça va être accepté au niveau de la CMR ? Question. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça, c'est un problème. Et puis, le problème aussi qui me tient à cœur, c'est que ça serait bien que les associations de radioamateurs, les quelques associations, se parlent, et surtout qu'elle prépare une position commune pour aller voir l'administration et faire des propositions pour la réintroduction d'une classe novice, pour la connexion à Internet. Je ne parle pas pour l'avenir de la bande 240, parce que ça, c'est plutôt du ressort de la CMR. Et voilà, tous ces petits sujets qui sont quand même un peu compliqués. Et depuis 3 ans, eh bien, elle se tire la bourre et rien ne se passe. Et évidemment, ce qui fait le bonheur de notre administration qui dit quand vous serez tous d'accord, venez nous voir.
Ouais.
Voilà. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, rien ne se passe. Voilà, donc après avoir vu tous ces petits points, eh bien, on a fini pour ce soir. Je vous souhaite donc à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.